Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez le 53e numéro d'En Spectateur. Au menu aujourd'hui, retour sur la dernière pièce passée en Cantor, J'ai jamais vu la mer, une création sur une mise en scène de Talia Pigier et Agathe Perrard. Puis en deuxième partie d'émission, vous retrouverez une chronique sur Tailleur pour dames, du Phédo mis en scène par Louise Vigneault, ça passait au Théâtre des Célestins jusqu'au 28 janvier. Chers auditeurs, chères auditrices, installez-vous confortablement, vous êtes sur Transistor et nous sommes ensemble pour une demi-heure. On commence donc avec J'ai jamais vu la mer, une création théâtrale que nous avons vue en Cantor la semaine dernière. Pour en parler aujourd'hui avec moi, deux chroniqueuses. La première fait son grand retour sur En Spectateur après un an d'agrégation. Bonjour Maëlys.
Bonjour Marie.
La seconde est une petite nouvelle dans En Spectateur et dans Transistor aussi. Il a fallu un peu la chauffer, mais la voici en studio et prête à donner son avis. Bonjour Solène.
Bonjour Marie.
Alors, J'ai jamais vu la mer. Alors, vous avez le droit de m'arrêter si vous n'êtes pas d'accord, mais bon, c'est un spectacle plutôt composite. Moi, j'identifie à peu près quatre grandes parties. Bon, ça peut peut-être se discuter. Donc, on a cinq acteurs sur scène, trois filles, deux garçons, qui commencent dans un premier temps à enchaîner des mouvements chorégraphiés sans parler. Puis, deuxième séquence, prennent la parole et égrènent diverses dates et événements majoritairement situés dans les années 1990-2000. Ensuite, on passe plutôt à une succession de scénettes avec chacune son unité propre, où on voit nos cinq acteurs passer du temps ensemble, se disputer, faire des vœux, etc. Et enfin, on revient, comme au début, à des enchaînements de mouvements sans parole, et on finit même par voir la mer à la fin, sous forme d'une corde qui saute, comme des vagues qui passent un peu, on pourra en reparler. Alors, pour débuter la discussion autour du spectacle, je laisse la parole à Maëlys. On t'écoute nous dire dans ta chronique ce que tu as pensé de la pièce.
Bonjour Marie. Alors, chers auditeurs, je vais vous parler de la pièce « J'ai jamais vu la mer » que Marie a très bien présentée en première partie. Donc, précaution d'usage, je tiens à dire que cette chronique est avant tout subjective et que les remarques et les impressions que je vais y exprimer n'engagent que moi. Alors, le pitch tient sur un bout de papier. Des amis de longue date se retrouvent sur une plage comme tous les étés et charrient avec eux leurs souvenirs, leurs histoires, leurs crispations, présentées à la fois comme dérisoires et universelles, au sein d'une réflexion plus générale sur l'histoire, la petite histoire dans la grande histoire, le souvenir, le temps qui passe. Alors, je n'avais pas un a priori très positif de la pièce avec un titre pareil qui m'évoquait une pièce de Jean-Luc Lagarce en sûrement moins bien et une affiche dans les tons de gris qui ne sentait ni la dérision ni la joie de vivre, je trouvais. Je me disais, bon, on va voir Maëlys. J'ai jamais vu la mer, ça veut dire regret ou remords, rancœur sourde, les règlements de compte, ça veut dire je, ça veut dire moi, ça veut dire introspection. Ça veut dire qu'on va se regarder le nombril et sortir des généralités sur le monde pendant une heure.
Bon.
Voilà, c'était un peu ma peur, quoi. Voilà, ça avait l'air très tristoun et très théâtre contemporain dans la manière de se prendre au sérieux, et je n'y suis pas allée en me disant que j'allais passer un bon moment, pardon pour tout le monde, mais on traîne avec nous nos prénotions et nos expériences théâtrales inégales. Bref, je ne sais pas pourquoi, moi je me suis dit que ça allait être au mieux ennuyeux, au pire lugubre.
Ah bah ça va.
Bon, on entre dans la salle, bingo, des personnages sont déjà sur scène à jouer à Domino Express avec des caplas. Ça va parler d'enfance, ce sont des enfants qui jouent, on ne sait pas trop, qui c'est, ils sont habillés tous pareils, c'est pas vraiment des personnages, je suis en train de me dire, bref. Début un petit peu chorégraphié, ils traversent la scène, peu à petit pas, tous regroupés les uns à côté des autres comme des pingouins. De temps en temps, il y en a un qui se perd, qui est rattrapé par les autres. Donc je me dis, c'est sûrement la métaphore de quelque chose, de quoi, je ne sais pas, la vie, la société, les relations humaines, de tout, bref. C'est implicite et je crois que je suis très mauvais public pour les choses implicites. Et là, j'avoue, j'ai eu un peu peur. Mais finalement, malgré mes gros a priori, je crois que je suis rentrée dans cette pièce très travaillée et qui dégageait un charme indéniable, même s'il y a des choses qui sont davantage des partis pris que des maladresses que j'ai moins appréciées en fait. Et même moi, pourtant loin d'être acquise à la pièce, je crois que j'ai finalement passé un très bon moment. Donc le premier point qui m'a bien plu, c'est la mise en scène et la scénographie qui étaient très soignées. Donc on a beau dire, même si les caplas évoquent pour moi des heures d'ennui quand on était petit et qu'on préférait jouer au Barbie ou au Pokémon, la mise en scène était très inventive avec ces petits bouts de bois qui accompagnaient judicieusement l'histoire et les personnages pour représenter le flot des émotions, le temps qui passe pour signifier un feu de camp ou même pour servir de gambas dans un plat de paella. J'ai trouvé ça très visuel et très original, et heureusement finalement qu'il y avait ces briquettes de souvenirs, ces éléments de décor à changer pour faire le lien entre les scènes et suivre l'histoire. Et puis il y avait ces ampoules au plafond qui pendaient de manière inégale et qui éclairaient judicieusement les souvenirs individuels et les scènes plus intimistes. Et puis, Il y a eu ces vœux formulés par les personnages avec de petits bateaux en origami pliés en direct, allumés et déposés sur la mer. En fait, une bassine d'eau sur scène. Et bon, je suis très bon public pour ce genre de mise en scène avec des choses qui flambent sur scène et la lumière des flammes. J'ai toujours l'impression que c'est une prouesse pyrotechnique de malade. J'ai trouvé vraiment cela simple, évocateur et très beau. Bref, je crois que je me suis laissée embarquer par tout ce tourbillon de cap-là, de petits bateaux en origami, de lumière en clair-obscur, par la mise en scène millimétrée et ingénieuse qui m'a vraiment plu. Le jeu des acteurs, qui était vraiment bien dirigé, m'a semblé aussi assez remarquable. Dans les intonations, on avait envie de rire avec eux quand ils riaient, d'être triste avec eux. On suivait bien leurs émotions. Les acteurs avaient gardé leur prénom ou diminutif et cela donnait un effet très réaliste qui m'a semblé intéressant. Et j'ai trouvé les scènes d'amitié à la fois crédibles, émouvantes, drôles parfois et profondes. Pour autant, l'histoire m'a semblé assez décousue et j'avais l'impression d'être ballottée entre les souvenirs individuels des personnages, les souvenirs collectifs de l'ensemble. Et je me suis un peu perdue, j'avais l'impression que les personnages avaient des personnalités et des caractères interchangeables, passionnants dans chaque scène, mais qu'il manquait de cohérence et d'épaisseur dans l'ensemble. Et j'ai eu un mal fou en fait à m'attacher ou à m'identifier à eux sur la longueur de la pièce et à en comprendre la progression. Je pense que j'aurais eu besoin d'un fil narratif un peu plus marqué, d'un suivi plus approfondi des personnages pour que leur psychologie résonne de manière un peu plus continue au fil de la pièce, jusqu'à l'apothéose avec la scène de la plage. La scène la plus concrète et la plus parlante, selon moi, celle qui parle de manière la plus explicite en fait d'amitié. Amitié qui est en fait juste esquissée tout au long de la pièce. Donc des regrets dus à l'agencement du scénario, dans mon cas, et peut-être au fait aussi que finalement toutes les scénettes ne font le récit que de moments dérisoires aussi fugaces et particuliers, d'où l'impression décousue qui fait aussi écho à tout le récital de dates dont tu as parlé, Marie, tout le récital de dates historiques un peu random du départ, comme si la grande histoire qui était en fait constituée de plein de petits événements infimes et que l'amitié était constituée de plein de petits détails infimes également. Donc je ne suis pas vraiment tombée amoureuse de la pièce, mais je crois que j'ai aimé, ou du moins j'ai été agréablement surprise par rapport à mes attentes. Et vu l'état dans lequel j'y allais, je crois que ce n'était pas non plus difficile. Donc la mise en scène vaut le détour et mérite au moins d'être discutée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Solène et Marie.
Alors oui, je partage un certain nombre de remarques. Alors par exemple, dans les points que j'ai assez appréciés, c'est cette chorégraphie en introduction. Contrairement à toi, Maëlys, alors j'y suis allée totalement à l'aveugle, c'est-à-dire que je ne connaissais pas l'intrigue, le synopsis, mais ça m'a tout de suite fait penser à l'amitié, cette mise en scène chorégraphiée avec les comédiens qui forment une chaîne, une sorte de groupe solidaire où ils se retiennent de tomber les uns les autres. Et moment aussi qui était assez intéressant, j'ai trouvé, c'est dans cette chorégraphie, quand ils se retrouvent à former une sorte de groupe de manchots sur leur banquise.
Ouais, c'était clairement des petits manchots empereurs.
C'était pas mal fait, j'ai trouvé. Ouais, et c'était assez intéressant de trouver... ça a contrebalancé un petit peu... Enfin, ça parlait bien des relations d'interdépendance voilà, ouais, dans les rapports humains et finalement dans la société. Et aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire le côté... finalement l'instinct grégaire qu'on a tous un peu en nous.
C'était sympa. Et en même temps, je trouve que dès le début du spectacle, ça pose le fait que ce sera pas un truc archi sérieux et prise de tête.
Oui,
c'est pas mal de rassurer le spectateur dès le début avec ça, je trouve.
C'est vrai, ça a apporté une pointe de drôlerie que finalement on a retrouvé dans le reste du spectacle, dans les scénettes, les dialogues.
Il y avait pas mal d'éléments assez drôles dans le texte. Tu l'as souligné un peu, Maëlys, on sourit pas mal, voire on rit. Hein. Petit clin d'œil à Juliette qui était assise à côté de nous et qui a ri aux éclats pendant tout le spectacle. Alors Maëlys, tu disais que tu déplorais un peu peut-être un manque de fil directeur dans la pièce. Ça, je suis assez d'accord. Je ne sais pas ce que t'en penses, toi, Solène.
Oui, je suis aussi d'accord. J'ai aussi remarqué qu'il y avait... c'était assez décousu, finalement. Parfois, on avait l'impression de juxtaposition de scènes qui n'étaient pas forcément bien reliées entre elles, même au début. L'énumération des dates, juste après cette chorégraphie, on ne voyait pas forcément le lien, l'enchaînement entre les deux n'était pas très clair.
Ouais, et après, enfin, on revient pareil à la partie chorégraphiée. Et, ça donne un côté un peu compartimenté au spectacle, ce qui est peut-être un petit peu dommage, je trouve. Bon, sachant que c'est un spectacle qui est conçu comme évolutif, donc c'est peut-être quelque chose sur lequel les metteuses en scène voudront revenir plus tard. Autre aspect que mentionnait Maëlys, sur lequel je voudrais revenir, c'est la mise en scène. C'est vrai que ça m'a beaucoup plu aussi. J'aime bien les lampes qui pendouillent au théâtre. C'est tout con, mais je trouve ça super joli souvent. Et puis les caplas. vu l'argent dépensé en Capla, je pense qu'on peut au moins rendre hommage à ça, vu le nombre qu'il y avait sur le plateau.
Ça coûte super cher, les Capla.
Ça coûte hyper cher.
C'est le jouet d'enfant de bobo par excellence, je trouve. C'est...
Je pense que chacun des comédiens en avait chez ses parents, au fond du grenier, et a ressorti sa boîte de Capla personnelle.
Ouais, c'est ça. Donc c'est à la fois un jeu, ça évoque l'enfance, en même temps c'est du bois, c'est une matière plutôt chaude. Ouais, ça donnait un côté intéressant au plateau.
Puis il y avait des petits moments de suspense, par exemple le coup des dominos au départ.
Vont-ils tomber
Il y en a la moitié qui n'est pas tombée.
Et vont-ils tenir debout aussi Mais à propos des caplas, justement, j'ai trouvé ça intéressant justement de les utiliser, parce que finalement c'est un spectacle qui parle de la jeunesse et qui évoque au début, par exemple, la question de finalement comment s'inscrire dans l'histoire avec un grand H en prenant sa toute petite part individuel. Et finalement, les caplas, ça renvoie à l'idée de construction, et c'est tout ce qui est c'est ce qui revient finalement tout au long de la pièce, c'est les personnages qui construisent, qui font de petites constructions avec leurs caplas, comme les enfants qu'ils étaient. Et finalement, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon choix de mise en scène.
Ouais, métaphoriquement, ça marche bien, quoi.
Ouais.
Ça marche compris pour faire une paella, hein.
Et compris les gambas.
Pareil, il y a aussi cette scène des petits bateaux brûlés qui représentent les vœux que chacun font. Alors, bon, là, c'est vrai que la scène était très jolie. Moi, je l'ai trouvée un peu confuse au sens où il y a beaucoup d'implicites dans les vœux que chacun formule, etc.
Il y en a un qui fait un vœu, on n'a jamais su. L'autre a dit. Non. Je ne sais plus si c'était Théo ou Lucas parmi les personnages.
C'est Lucas, il me semble.
Il fait un vœu et il y a. C'est Amélie. Enfin, une de. Protagoniste féminine qui a l'air de dire qu'elle connaît le vœu, etc., et que c'est pas la peine qu'il le formule. Donc du coup, on reste un peu là sur notre fin. Enfin, moi, je sais pas, je me suis posé la question tout le week-end.
Ah ouais, ça t'a torturé à ce point-là, quoi.
Mais alors, justement, à propos de ces vœux, j'ai trouvé que le pliage d'origami, il y avait une petite longueur, bon, qui est sans doute nécessaire le temps de faire son origami, mais c'est vrai que ça fait partie... des bémols que je mettrais dans mon appréciation de la pièce, c'est par moments il y avait des longueurs, j'ai trouvé. On passait un petit peu trop de temps sur certaines scénettes du quotidien, on va dire. Et voilà, ça fait partie de ces petites choses que j'ai un peu que j'ai moins aimé.
Alors, est-ce que tu ranges la scène des sushis dans cette catégorie?
Ah, moi je l'ai trouvé très drôle, la scène des sushis.
Elle est drôle, mais je l'ai pas comprise avec l'ensemble, en fait. Enfin, je sais pas, il y avait que deux personnages. On savait pas s'ils sortaient ensemble ou pas. Enfin, c'était.
Oui, c'est vrai, c'était assez ambigu quand même.
Ambigu. Ça, c'est encore Maëlys qui veut tout sociologiser.
Non.
Qui est avec qui, qui est genré.
Non, mais pas du tout. Mais en fait, ce qui m'a un petit peu gênée, c'est que c'était effectivement des moments dérisoires du quotidien, mais j'avais l'impression qu'on n'avait pas les moments importants qui font d'une amitié, quoi. C'est pas, enfin, on a parlé de sushi, on a parlé de paella, on a vaguement dans les vœux, on apprenait que le père de Lin était malade. Bah, ça, c'est des choses importantes, j'ai l'impression. Ouais. Et en fait, j'avais l'impression simplement d'affleurer leur amitié en surface, quoi.
Peut-être parce que les personnages sont pas très caractérisés.
Ouais. Le sous-texte aussi, voilà.
Mais en même temps, voilà, c'est un peu voulu le fait qu'ils ont pas d'histoire, parce que ça pourrait être n'importe qui et qu'il s'agit pas de créer des psychologies très très fouillées. Et moi, je l'ai bien aimé, cette scène des sushis. Elle était peut-être un petit peu longue, mais.
Elle était drôle.
Mmh. Elle était drôle. Et au fond, c'est la seule scène qu'il y avait dans ce genre-là. Où les deux personnages ne parlent pas entre eux, mais chacun dit ce qu'il pense, et ça évoque un peu des souvenirs qu'on peut avoir, des moments où on a ragé sur nos propres amis et sur tous les abus dont ils se rendent responsables. Ouais, elle était assez drôle, même si du coup, je suppose que ça devait un peu faire la jonction entre l'énumération de dates et le reste des scénettes qui étaient présentées de manière un peu plus réaliste, et pas avec deux personnages qui partagent le plateau, mais... qui dialoguent pas vraiment, quoi, qui sont chacun dans leur aparté. Je sais pas, moi j'ai trouvé que ça fonctionnait.
Ça fonctionnait pas mal, ouais.
Autre chose dont vous voudriez parler sur le spectacle avant qu'on referme la discussion?
Alors oui, on parlait du fait que c'était un spectacle assez composite et dont le parti pris c'était de mêler danse et théâtre et aussi musique. Mais c'est vrai que finalement, la danse, on la voyait à l'ouverture, on la voyait à la clôture, mais enfin, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais du coup. Je pensais que les deux seraient beaucoup plus entremêlés.
Si tu avais écouté ma super interview, C'est vrai. Tu... Hein,
ouais, voilà. Mais on n'y serait pas allé avec un esprit vierge de toute impression. Voilà.
Ouais.
Voilà, j'y suis allée en toute ignorance.
C'est
en
marrant,
toute naïveté.
Mathilde me sortait exactement les mêmes choses. Bande de chroniqueuses indignes.
Voilà.
Mais donc, tu aurais voulu qu'il y ait un peu plus de chorégraphie.
Non, mais enfin, on va dire que c'était un parti pris, mais enfin, danse et théâtre étaient assez finalement dissociés l'un de l'autre et on voyait la danse intervenir uniquement au début et à la fin de la pièce finalement.
Oui, sans avoir même ne serait-ce que des moments de superposition. Si, quand même, à la fin, il y a l'un des personnages, alors l'un des deux garçons, je ne sais plus lequel, qui parle,
qui
raconte
la parole,
cette histoire d'amour ratée, et ça commence à danser pendant ce temps-là.
Oui, c'est vrai.
Et
c'est le seul moment où il y a
dommage
le...
qu'ils aient pas un peu plus...
exploiter ce filon-là,
cet aspect-là, t'en penses quoi, Tomélie?
Alors, pour tout vous dire, j'ai trouvé que ça rappelait, on voyait bien que ça allait se terminer parce que ça rappelait la chorégraphie du début, voilà, ça faisait un beau tout, etc. Par contre, j'ai pas bien compris pourquoi ça s'arrêtait là. On voyait que la pièce allait se refermer, que c'était un tout, mais j'ai pas bien compris le sous-texte, en fait, je sais pas, c'est peut-être moi et mes implicites, je sais pas si...
Ce que disait la metteuse en scène Talia dans l'interview que j'ai fait avec elle, c'est que l'idée c'est d'arriver à un moment où le mouvement peut dire ce que la parole n'arrive plus à dire.
Oui, c'est ce qu'il dit dans le.
Peut-être
moi,
que du coup c'est pas assez clair.
Moi j'ai pas forcément compris ce que voulait dire la parole en fait tout au long de la pièce et je pense que j'ai pas plus compris ce que voulait dire vraiment le mouvement en fait.
Voilà, D'accord. Bon, ce sera donc une belle conclusion. Non, j'ai quand même une question de conclusion pour vous. La pièce repassera à Nanterre dans quelques mois. Est-ce que c'est une pièce que vous recommanderez aux futurs spectateurs et futures spectatrices, Solène?
Oui, je pense que ça vaut la peine d'aller voir. Surtout si c'est évolutif, comme tu dis. Donc ça peut être intéressant de voir comment ils ajustent certaines choses.
Et comment ils retravaillent
au plateau. Comment ils
transforment, voilà. Ouais, et moi je pense aussi de le revoir une deuxième fois. Peut-être que ça me ferait pas de mal. Peut-être que je verrai plus d'explicite... plus de sens à tout ça. Mais en tout cas, c'est très joli à regarder. Voilà, je pense que c'est une bonne conclusion.
Ben, je suis assez d'accord. Et c'est aussi un spectacle que je vous recommande, chers auditeurs et chères auditrices. C'est un spectacle qui n'est pas prise de tête. Et au fond, qui est... Enfin, pas prise de tête au sens grosse prise de tête de théâtre contemporain, je veux dire. Mais qui reste intéressant et avec une mise en scène tout à fait agréable et appréciable. Donc je vous la recommande complètement moi aussi. Merci à vous deux. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous proposons maintenant une nouvelle rubrique. J'ai avec moi au studio aujourd'hui Chloé, une nouvelle chroniqueuse, qui vous proposera régulièrement son avis sur des pièces et des spectacles qui passent dans les théâtres lyonnais. Pour inaugurer cette série, on commence aujourd'hui avec Tailleur pour dames, une pièce de Georges Feydeau, mise en scène par Louise Vigneault, qui passait fin janvier au Théâtre des Célestins. Et on commence avec cette citation de Pascal qui avait été placée dans le programme du spectacle, « Qu'on laisse un roi tout seul, sans aucune satisfaction des sens, sans aucun soin dans l'esprit, sans compagnie, penser à lui tout à loisir, et l'on verra qu'un roi sans divertissement est un homme plein de misère. » Je te laisse la parole, bonjour Chloé.
Bonjour à tous, merci Marie. Tailleur pour dames est en effet une pièce de Feydeau mise en scène par Louise Vigneault, une jeune metteur en scène tout à fait prometteuse. Elle a été jouée du 18 au 28 janvier 2017 au Théâtre des Célestins de Lyon, avec Prune Beuchat, Joseph Bourillon, Pauline Coffre, Marie-Ève Guitier, Maxime Mention, Clément Morinière, Thomas Rorté et Charlotte Villalonga. Difficile de raconter sans s'y perdre l'histoire follement rocambolesque de Tailleur pour dames. Si l'on s'en tient à la fable, tout donne l'apparence d'un vaudeville classique. Monsieur Moulineau, marié depuis à peine 6 mois, découche. Il cherche l'aventure avec Suzanne. Sa femme, désespérée, est secourue par sa mère, la belle-mère donc, qui emménage dans l'appartement conjugal et fait acte d'autorité pour sauver le mariage de sa fille. Monsieur Bassinet, quant à lui, court après une femme qu'il a perdue. Littéralement perdue, alors qu'il ne l'avait laissée que le temps de s'acheter un cigare, sur un banc. Depuis, il tient grâce aux médicaments. Quant au mari de Suzanne, monsieur Aubin, d'apparence si vertueuse, il entretient une aventure avec Rosa, qui se trouve être... la femme de Bassinet. Quel vertige! C'est bien la sensation que donne la pièce. Pendant 90 minutes, les acteurs ne cessent pas de courir d'un bout à l'autre du plateau. mais avec une précision millimétrée. Une gestuelle ultra précise, des entrées en scène devançant la sonnette de la porte d'entrée. Les scènes s'enchaînent et se déchaînent à l'image d'une scénographie protéiforme, toujours en mouvement, faisant et refaisant le décor. Une mouvance symbole d'un couple qui peine à s'installer, symbole d'existence instable et bancale. Par la mise en scène, est chassé fort heureusement tout caractère potentiellement désuet dont peuvent parfois témoigner les ficelles bien connues de la comédie, les quiproquos, les coups de théâtre, les scènes de reconnaissance, la liberté du valet et l'inconscience des maîtres. Tout est connu, et tout pourtant paraît nouveau et recèle d'une folle modernité. Alors même que et les décors et les costumes demeurent atemporels. Peut-être cela réside en le traitement de la belle-mère, décidément rock'n'roll. Peut-être en le traitement plus général des femmes, dont le caractère libre et libertin ne peut être que celui de la modernité. Et on rit, on ne cesse de rire. Mais d'où vient alors cette sensation de malaise? Cette impression étrange que le rire jaunit, glisse, que le rire faillit? C'est là le coup de maître. Alors qu'on rit est révélée l'origine douloureuse de ces situations pourtant hilarantes. Si les personnages ne cessent de gesticuler, de se tromper, de se mentir, de se toucher dans un tourbillon vertigineux, c'est pour demeurer, quoi qu'il arrive, dans l'oubli de soi que permet l'activité à outrance et le désir roi. Cela cache difficilement un irrépressible sentiment de solitude, la peur de l'ennui, la fuite de soi-même. Cette douleur apparaît en creux dans la pièce, quand le narratif joyeux est rompu. Soudain, dans des moments suspendus, de pause ou de pantomime, la crise apparaît. La lumière s'intensifie, le son monte. Le personnage échappe à son archétype et fait voir toute sa fragilité singulière. Si à force l'alternance entre narration et rupture douloureuse est connue et donc attendue, si l'œil du spectateur aurait aimé se laisser surprendre par d'autres jeux de nuances fort bien trouvés, il est clair que la répétition du même schéma narratif est à l'image de l'aspect systématique qui régit la vie des personnages. La fin de la fable, peut-être frustrante, ne pouvait pourtant n'être que ce qu'elle est, irrésolue. La frénésie ayant été filée depuis le lever de rideau, les personnages semblent devoir la poursuivre éternellement, vain, condamné.
Merci Chloé. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir suivi ce numéro d'En Spectateur. J'espère qu'il vous a plu. À la technique, aujourd'hui, on remercie Marie Blanc. Merci aussi à mes chroniqueuses du jour, Solène et Maëlys. Merci à Chloé pour son billet sur Phédo qui passait donc au Théâtre des Célestins. Et on essaiera sans doute de vous proposer régulièrement des avis sur ce qui passe dans les théâtres lyonnais. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires sur la page de l'émission. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.